Vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison. Il est 23h ici à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 24h en France, votre rendez-vous d'une demi-heure consacrée à l'actualité française.
Stéphane Genest.
Et d'abord le journal, avec à la une la première journée du procès de l'assassinat de Samuel Paty, décapité par un islamiste radical, a débuté ce lundi. 8 personnes comparaissent devant la cour d'assises spécialement composée pour avoir à des degrés divers participé à cet acte terroriste. La France dévoile son plan pour le climat avec un objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030, tout en visant entre autres à atteindre 2/3 de ventes de voitures électriques. On vous explique tout. Au sommaire également, une grève nationale qui a débuté dans les hôpitaux publics. Les syndicats dénoncent le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le cinquième distributeur français, le groupe Auchan, en grande difficulté financière, s'apprête à mener un plan social d'ampleur. Et les écrivains Kamel Daoud et Gaël Faye, à la fête ce soir, ils ont remporté respectivement le prix Goncourt et le prix Renaudot.
RFI.
Le procès des 8 personnes impliquées à des degrés divers dans l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty le 16 octobre 2020 s'est donc ouvert ce lundi. Première journée achevée sans que la cour d'assises spéciale de Paris n'entende la voix des accusés. Les premiers mots de ces accusés sont donc attendus demain matin à la reprise de l'audience avec l'examen de personnalité des 2 seuls hommes poursuivis pour complicité d'assassinat terroriste, un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Drame qu'est l'assassinat de Samuel Paty qui a profondément marqué les habitants de Conflans. C'est là qu'il enseignait, à l'ouest de Paris. C'est ce qu'a constaté Lou Ecal pour RFI Reportage.
Assis en terrasse d'une brasserie au bord des quais, Gilles et Sylvie prennent l'apéritif. Elle est née à Conflans-Sainte-Honorine. Il y a 4 ans, le 16 octobre 2020, elle était là et se souvient.
J'étais au travail. C'est mon fils qui m'a appelé pour me dire que juste à côté de chez eux et au collège des gosses, il y avait eu ça. Quoi. En fait, il y avait eu Samuel Paty qui s'était fait égorger et puis le mec qui avait été tué. Quoi.
4 ans plus tard, la retraitée aux cheveux roux et aux cils charbonneux reste marquée par ce drame.
J'y pense, bien sûr, parce que bon, c'est près de chez nous. C'est, comme je vous dis, c'était un des profs qui était dans le collège de mes petits-enfants. Donc bien sûr qu'on y pense.
Dans la voix des Conflanais, l'émotion est encore vive lorsqu'il s'agit d'évoquer Samuel Paty. Cet homme de 73 ans peine à trouver ses mots.
C'est un truc qui reste, comment on peut dire, en sourdine, que c'est là, c'est présent. On ne peut pas oublier. Je plains beaucoup la famille et tout. Parce que...
La vie a repris son cours à Conflans-Sainte-Honorine, mais la mémoire de Samuel Paty demeure. Chaque année, le 16 octobre, une cérémonie d'hommage est organisée sur la place de la Liberté.
Reportage signé Lou Ecal pour RFI. À une semaine du début de la COP29, c'est à Bakou, en Azerbaïdjan, la France a présenté tout à l'heure, avec des mois de retard, sa stratégie climatique et énergétique pour la prochaine décennie. 2 documents, la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone, seront soumis à une consultation publique. Consultation qui va durer jusqu'au 15 décembre et les Françaises et les Français auront donc la possibilité de débattre et de contribuer à ces feuilles de route qui vont déterminer largement leur vie pour les années à venir, Stéphanie Schuller.
L'objectif du gouvernement français, baisser de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 et les leviers envisagés pour y parvenir sont multiples. La France mise sur une accélération des énergies renouvelables et prépare ensuite l'arrivée de réacteurs nucléaires nouvelle génération. Les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, en commençant par l'industrie, suivi des transports, du bâtiment et de l'agriculture, se voit fixer des plafonds d'émissions à ne pas dépasser. Pour y arriver, il s'agira par exemple de poursuivre l'électrification du parc automobile ou encore de rénover 600 000 logements. La stratégie française n'aboutira cependant pas sans sobriété. Cela impliquera de profonds changements dans le comportement des citoyens, qu'il s'agisse de leurs habitudes alimentaires, de consommation ou de mobilité. Le gouvernement promet d'ailleurs que ces 2 documents sont susceptibles d'évoluer avec les contributions des Français. Ce n'est que début 2025 qu'ils seront alors adoptés par décret, sans examen par le Parlement.
Le décryptage de Stéphanie Schuller du service environnement climat de RFI. Ce qu'il faut également retenir de l'actualité de ce lundi en France, c'est cette scène surréaliste qui s'est déroulée dans un train ce matin à quelques kilomètres au sud-est de Paris. 4 personnes blessées, à coups de hache. Une victime a eu le crâne ouvert, une autre a été gravement blessée à la main. Il s'agirait là d'un règlement de compte entre jeunes adolescents de cité rivale. Un suspect de 16 ans a été interpellé. Et puis toujours au chapitre judiciaire, le principal suspect du meurtre de Philippine en septembre dernier, qui a été arrêté en Suisse, sera extradé ce mercredi vers la France. Il confirme son consentement à une remise à la justice française ce lundi. Il est 23h05 ici à Paris et on en vient à cette colère, la colère des soignants. Quatre syndicats de la fonction publique hospitalière ont déposé un préavis de grève. Ils courent jusqu'à la fin de l'examen du projet de budget de la sécurité sociale au Parlement. Examen du projet qui a lieu en ce moment et qui devrait durer jusqu'à la mi-décembre. Ce budget présenté par le gouvernement prévoit d'augmenter de 3% l'enveloppe pour les établissements de santé et pour l'intersyndicale et la Fédération hospitalière de France qui représente les hôpitaux publics. L'augmentation réelle sera finalement proche de zéro une fois absorbée l'accroissement des cotisations retraite et donc l'impact de l'inflation, et cela alors que l'hôpital est déjà en souffrance. Explication avec Valérie Cohen.
Sous-effectif, fermeture de lits, engorgement des services d'urgence, l'hôpital est malade et ce projet de budget aggravera son cas selon l'intersyndicale. Didier Birigue est le secrétaire général de la Fédération des services publics et de santé du syndicat Force ouvrière.
Le gouvernement aujourd'hui annonce des chiffres d'augmentation de nos budgets qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous avons besoin. Donc on sait que mécaniquement, on sera en déficit et donc avec des conséquences. C'est-à-dire que les agences régionales de santé vont demander aux directeurs d'établissement de lancer des grands plans de retour à l'équilibre dans les établissements, à savoir jouer sur la dernière variable sur laquelle ils peuvent encore jouer aujourd'hui, à savoir les effectifs en personnel. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas renouveler des contrats d'agents qui sont en CDD. Ce qui veut dire qu'ils ne vont plus faire appel à de la main-d'œuvre extérieure pour venir renforcer les équipes lorsqu'on en a besoin. Ce qui veut dire en cascade fermeture de lits, fermeture de services et bien sûr, ça veut dire les Français sur des brancards encore plus longtemps avec des pertes de chance au niveau de leur prise en charge à l'hôpital.
L'intersyndicale réclame un plan Marshall pour la santé.
Et nous parlions budget pour l'année 2025. L'Assemblée nationale a approuvé tout à l'heure avec les voix de la gauche une version profondément remaniée de la partie recette du budget pour l'an prochain. Les députés macronistes et de droite ayant pour leur part voté contre. Toujours en ce qui concerne l'économie, l'heure est aussi aux restrictions budgétaires pour le distributeur alimentaire Auchan. Près de 2300 postes sont menacés par un plan social. La direction devrait en faire l'annonce demain matin aux représentants du personnel qui compte plus de 50 000 salariés. Situation qui est le résultat de plusieurs années difficiles et surtout de la perte de vitesse du groupe à l'international, Galibonin.
En cinquième position sur le marché de la distribution française, Auchan peine à garder la tête hors de l'eau. Sa holding LO a perdu 1 milliard d'euros sur les 6 premiers mois de 2024 et ses ventes ont reculé de presque 2% en 2023. Durant des années, le groupe pouvait compter sur ses activités à l'international pour essuyer les pertes françaises. Mais après avoir quitté l'Italie en 2019 et la Chine l'année suivante, Auchan s'apprêterait maintenant à abandonner sa principale bouée de sauvetage, la Russie. Filiale la plus rentable à l'international, elle représente 10% du chiffre d'affaires du groupe et compte près de 30 000 salariés. La guerre en Ukraine a miné les activités du distributeur qui a vu son revenu reculer de 5% l'an dernier. Selon des informations de presse, Auchan serait en voie de revendre ses magasins sur place, un départ qu'il paierait au prix fort. Moscou force les sociétés qui quittent le pays à céder leurs entreprises à moitié prix, sorte de taxe à la sortie mise en place en réponse aux sanctions occidentales.
Galibonin. Du changement dans le paysage ferroviaire français. Fret SNCF, entreprise leader du fret ferroviaire dans le pays, va disparaître le 1er janvier prochain pour renaître sous la forme de deux sociétés distinctes. L'une d'elles, baptisée Exafret, se consacrera au transport de marchandises. L'autre, Technis, pour la maintenance des locomotives. Au total, ce sont 500 emplois qui vont être supprimés, soit 10% des effectifs. La SNCF promet qu'il n'y aura aucun licenciement et affirme que l'ensemble des cheminots concernés seront transférés dans d'autres entreprises du groupe ferroviaire. En Martinique, le couvre-feu de minuit à 5h va être levé dès ce mardi matin. Il était toujours en vigueur à Fort-de-France et dans 4 autres communes de l'île des Antilles. Un couvre-feu qui s'est élevé en raison de l'amélioration de la situation sur l'île. Après une semaine sans violence urbaine et sans barrage, les Martiniquais qui font entendre leur voix contre la vie chère sur ce territoire ultramarin. Et puis un petit mot de culture et de littérature. voiture, plus précisément, pour refermer cette édition d'information de 24 heures en France avant d'entamer la deuxième partie, puisque le plus prestigieux prix littéraire français, le prix Goncourt, a été décerné. Tout à l'heure, c'est l'écrivain Kamel Daoud qui a été récompensé pour son livre Houri. Autre prix attribué, aujourd'hui, le prix Renaudot, c'est le franco-rwandais Gaël Faye qui l'a remporté avec Jacaranda, publié chez Grasset Isabelle Chenu.
Ce sont deux romans sur deux tragédies africaines qui viennent d'être récompensés. Prix Goncourt pour Kamel Daoud avec Houri, publié chez Gallimard. Un roman sur la décennie noire algérienne des années 1990. Une guerre civile qui a vu s'affronter l'armée et les islamistes et a laissé de profonds traumatismes. D'autant que la loi de réconciliation algérienne de 2005 interdit de parler de la période. Kamel Daoud remporte donc une victoire non seulement littéraire, mais aussi politique. La publication de son livre a d'ailleurs tendu les relations entre la France et l'Algérie. Son roman donne voix à une femme qui n'en a presque plus, survivante d'un égorgement, et s'attelle au non-dit. L'autre favori, Gaël Faye, est récompensé du prix Renaudot avec Jacaranda, publié chez Grasset. Encore une fois, le jury a choisi un récit de mémoire empêché, l'histoire d'un jeune garçon né en France qui, en découvrant le génocide des Tutsis de 1994, décide d'en savoir plus sur ses origines rwandaises en allant sur place. Gaël Faye, qui vit désormais en famille au Rwanda, a voulu porter la voix d'une jeunesse, une deuxième génération européenne ou métisse, parfois privée de son histoire douloureuse.
Isabelle Chenu, 22h11 en temps universel.
24 heures en France. Stéphane Genest.
Et on part dans le sud-ouest du pays, à Cahuzac-sur-Vair, pour être tout à fait précis, c'est tout près de Toulouse. On découvre ensemble une maison d'accompagnement qui accueille des personnes en fin de vie ou malades dont l'état est stable et ne nécessite pas d'hospitalisation. À mi-chemin, entre hôpital et domicile, les résidents viennent y chercher en plus des soins, de l'écoute, du bien-être et surtout du repos. Reportage signé Baptiste Coulon.
Quelques notes de Johnny Hallyday s'échappent dans le couloir.
Toc, toc.
La porte est entrouverte.
On peut venir ?
Nous entrons dans la chambre qu'occupent Patrick et sa chienne Lola. Depuis 5 ans, il est atteint d'une maladie neurodégénérative qui paralyse ses muscles, complique son élocution et le contraint au fauteuil roulant.
Le pire de cette maladie, c'est que vous êtes conscient et je vois tout.
Patrick voit la maladie gagner du terrain et vivre à domicile est devenu impossible. Cette maison d'accompagnement est donc l'alternative qu'il souhaitait.
Ici, il y a beaucoup de soutien parce que c'est de plus en plus dur.
Je mets des croquettes pour le chien.
C'est mieux que l'hôpital, par exemple.
Oh, l'hôpital, ils n'ont pas le temps d'être occupés.
Ici, on s'occupe de vous.
Ce fan de rock se sent chez lui dans la chambre qu'il a personnalisée à son image. Accrochée au plafond, une boule à facettes illumine la pièce.
Il faut imaginer cette maison comme un domicile où peuvent vivre 12 personnes.
Cette maison ouverte il y a un an permet de combler un vide entre hôpital et domicile, explique sa présidente Delphine Calicis.
Moi j'ai été infirmière dans le réseau de soins palliatifs pendant 10 ans et des personnes en dessous de 60 ans qui étaient isolées à domicile ou bien parce que les proches aidants étaient épuisés, à part l'hôpital, il n'y avait rien. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité créer cette maison, c'est parce qu'on se disait qu'il y avait énormément de personnes qui ne trouvaient pas de lieu pour pouvoir finir leur jour.
L'intérêt de cette maison, c'est aussi sa souplesse. Les résidents entrent et sortent quand ils le veulent. Leurs proches ont la clé pour leur rendre visite n'importe quand.
J'ai mes bouquins, la télé, beaucoup de livres.
Vous avez une petite terrasse ?
Oui, c'est ça. C'est ça qui est formidable pour moi.
Depuis sa chambre, Odette, 95 ans, profite de la nature à perte de vue, loin de l'enfermement redouté en EHPAD.
J'avais trop peur de me retrouver dans une EHPAD avec des murs en face de moi, vous voyez. Là, on a des couchers de soleil magnifiques.
Le réseau des soins palliatifs peut intervenir à tout moment, mais ces maisons restent peu médicalisées. L'accent est surtout mis sur le bien-être, l'écoute, le social, explique Delphine Calicis.
Ça donne du sens.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ça soigne ?
Bien sûr que ça soigne. Regardez-la, regardez-la. Vous voyez, c'est pas beau ça. Lui, il a perdu sa femme et elle, elle a perdu son mari. Ils se sont retrouvés, c'est magnifique. Ils se font le bisou tous les jours.
Moment de partage par excellence, le repas, toujours en musique.
Il est notre DJ, c'est lui qui met l'ambiance.
Le DJ s'appelle évidemment Patrick.
Souvent, il y a des musiques qu'on connaît, donc tout le monde chante. Hein ? Jos, vous aimez chanter ? Vous aimez
oui.
La musique, hein ?
Oui.
Oui.
Allez, bon appétit tout le monde !
Dans la seule maison d'accompagnement de France, une fin de vie dans la dignité. Reportage signé Baptiste Coulon dans 24 heures en France. Et notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture. Aujourd'hui, on découvre une spectaculaire fresque murale de 60 mètres de long. Elle est exposée jusqu'au 5 janvier sous la verrière du Palais de Tokyo à Paris. C'est à deux pas du Trocadéro. Une œuvre signée de la plasticienne franco-malgache Malal Andriala Vidrazan. Elle l'a créée spécialement pour cette exposition, intitulée Figure. L'artiste réagence sur cette gigantesque fresque le travail de photomontage numérique qu'elle développe depuis maintenant une dizaine d'années. Photomontage qui prennent forme au moyen de sources comme des timbres, des billets de banque ou encore des estampes et surtout des cartes géographiques. Mala Andriala Vidrazan est l'invité d'Edmond Sadakar.
Malal Andriala Vidrazan, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avoir choisi ce concept des cartes géographiques ?
L'idée de ces cartes qu'on peut voir les unes à côté des autres, c'est de voir comment le monde s'est déplacé au cours de ces trois derniers siècles, comment les humains, toutes les populations du monde entier, en fait, se sont déplacées à travers ces cartes. On voit aussi comment les frontières artificielles, par exemple, se sont amoncelées.
On peut découvrir des documents parfois compromettant, peut-être comme certaines cartographies produites au profit des empires coloniaux.
Il y a plusieurs des documents qui sont montrés là, qui ont été détournés par les dirigeants successifs qui étaient au pouvoir au cours de l'histoire. On peut remonter à la fin du XVIIIe siècle. Et alors là, c'est vrai pour le coup, pour toute la partie, l'histoire coloniale du XIXe siècle, donc qui arrivait jusqu'à nous. Les héritages de l'histoire coloniale restent très présents dans le monde contemporain. Donc là, il y a une visibilité qui est quand même assez exceptionnelle.
Comment avez-vous procédé pour rassembler ces archives souvent très anciennes ?
Moi, les documents que je rassemble chez moi, dans ma collection, en fait, n'ont pas vraiment de hiérarchie. C'est pas une collection qui est conçue de manière scientifique, c'est vraiment, enfin, c'est ultra libre.
Alors, le grand format, c'est une nouveauté pour vous. Vos œuvres auparavant étaient d'une dimension plus petite. Ça change votre manière d'aborder le travail ?
Oui, évidemment, ça change. Ça change aussi pour les lecteurs. Et là, il n'y a pas besoin de loup, puisque tout a été projeté à une échelle qui permet aux spectateurs de rentrer dans ces images d'archives qui racontent l'histoire du monde, pouvoir confronter les choses qu'on a gardées en mémoire, les choses qu'on a un petit peu rangé dans les placards pour des histoires diplomatiques ou autres. Il y a tout un tas de raisons qui font que certaines images ont été moins visibles que d'autres. Ce qui est traité vraiment dans cette œuvre, ce sont les deux, trois derniers siècles qui nous précèdent, hein, jusqu'à nos jours. C'est un travail qui s'intéresse surtout au monde d'aujourd'hui. La partie historique dans l'œuvre est prétexte pour aborder les problématiques contemporaines.
Est-ce que vous inspirez beaucoup de l'actualité pour réaliser ces fresques ?
Oui, tout à fait. Cette année, par exemple, il y a eu les Jeux Olympiques à Paris. Et là, par exemple, du coup, il y a des petits clins d'œil dans les parties qui ont été composées spécialement pour cette exposition. Mais enfin, depuis une dizaine d'années, on peut retracer différentes actualités d'une œuvre à une autre.
La lumière naturelle qui passe par cette immense verrière du palais de Tokyo, ça donne un côté presque féerique à cette fresque.
En fait, il faut imaginer la verrière qui fait 60 mètres de long. Ça, c'est la longueur de la fresque. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, il y a la lumière qui bouge, évidemment, en fonction de l'ensoleillement ou des nuages. Ça crée des mouvements qui se projettent sur la fresque et qui rythment ces histoires d'une manière très inattendue. Et je pense que c'est assez surprenant aussi pour les visiteurs parce que personne ne verra jamais tout à fait la même chose.
Malal Andriala Vidrazan, merci.
Ben merci à vous.
Et cet entretien, vous le retrouvez sur notre site RFI.fr. Il est 23h19 ici à Paris, 19h19 à Cayenne.
Le journal des Outre-mer.
Avec à la une une campagne expérimentale de pêche qui est actuellement en cours au large de la Guyane. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. Il s'agira, pendant une semaine, de familiariser les professionnels locaux avec une technique peu ou pas pratiquée dans le département français de l'Amérique du Sud. Et c'est ainsi que le chalutier Yannick II, transformé en palangrier, a pris la mer le 31 octobre dernier. Reportage Charlie Torres.
C'est une pêche à la palangre. C'est une campagne de pêche différente de ce que l'on connaît d'habitude. Donc on part sur le principe d'avoir une ligne mer de près de 50 km avec près d'un millier d'hameçons qui sont relâchés donc, pour aller pêcher des grands pélagiques. Donc c'est ça l'objectif principal. Donc la première innovation, c'est de transformer ce chalutier en palangrier.
Aux missions confiées à 4 membres d'équipage, un observateur scientifique ainsi que 2 capitaines dont Pascal Briand, expérimenté dans ce domaine.
On va dire que ça va être nouveau sur la Guyane puisque cette pêche n'a pas été testée. C'est une palangue, il va falloir mettre les gars au jus, quoi. Il va falloir leur faire voir le métier. Donc on va commencer avec aller 800 hameçons, quoi. Normalement sur un bateau de 22 mètres on travaillerait entre 1500 et 2000 hameçons. Petit à petit, quand les gars seront bien formés, on pourra rentrer dans cette quantité, quoi, entre 1500 et 2000 hameçons. Ouais.
Bon vent au Yannick 2, dans l'espoir que les espèces visées mordront aux hameçons pour une meilleure connaissance du milieu et le développement d'une filière industrielle guyanaise en très grande souffrance en ce moment.
En bref, 2 jeunes âgés de 15 et 20 ans ont été tués dimanche soir dans une fusillade survenue au sein d'une résidence de Fort-de-France en Martinique. 4 individus encagoulés ont fait irruption dans un bâtiment et ont ouvert le feu pour des raisons encore inconnues. 7 autres personnes ont été blessées, dont une grièvement. Bientôt des étiquettes de couleur noire sur les produits trop gras, trop salés, trop sucrés ou les 3 à la fois, point d'interrogation. Le projet est à l'étude en Polynésie française, un territoire où le diabète sévit et où 70% de la population serait en surpoids, dont 40% carrément obèse. Axel Mézinel.
Trop de sucre, trop de sel, trop de calories, trop de graisse saturée. Ces étiquettes santé visent à inciter les consommateurs à faire un autre choix, explique Tepuaraori Teritai, membre de la commission santé de l'Assemblée.
Quand on va acheter des choses, alors particulièrement les produits manufacturés, hein, effectivement transformés, comme les chips, comme les boissons sucrées, comme les produits gras en boîte, les conserves, etc., que les gens, lorsqu'ils choisissent ce produit, en fait, réfléchissent lorsqu'ils voient cette étiquette noire dessus en se disant « Est-ce que je peux pas plutôt aller peut-être vers une autre boîte ?»
Mais de telles étiquettes seront-elles dissuasives? Pas vraiment, selon ces amateurs de produits peu vertueux.
Depuis petit temps, on mange que ça.
Je pense pas qu'il y aura un changement. Le coca, déjà, c'est sucré.
Lors de la présentation de la proposition de loi du pays au Conseil économique, social, environnemental et culturel, des entrepreneurs ont évoqué le coût des étiquettes santé à apposer à l'avant des paquets de chips, par exemple. Mais pour Christophe Plé de la CPME, l'intérêt est ailleurs.
On est le 7e pays le plus obèse du monde. On peut pas se dire on va prendre des mesurettes. Il faut vraiment commencer à travailler sur le fond pour avoir des résultats dans 10, 15, 20 ans.
Responsabiliser les consommateurs, mais aussi inciter les industriels à produire plus sainement, c'est aussi tout l'enjeu de cet étiquetage.
On termine avec un produit en principe bon pour la santé, le lait. Le bon lait de l'île de la Réunion qui sera en fait samedi et dimanche prochain à la plaine des Cafres. Une plaine ou plus précisément un plateau situé à plus de 1000 mètres d'altitude et où l'élevage a trouvé l'un de ses lieux de prédilection. Un secteur qui fournit 1/5 de la consommation locale et qu'il faut donc encourager, comme l'explique le président de la Chambre d'agriculture de la Réunion, Frédéric Vienne, au micro de Suzette Emma.
On voit l'engouement des jeunes qui souhaitent reprendre un élevage laitier, reprendre la suite de leurs parents également, ils ont grandi dans cet univers-là, malgré les difficultés, parce que je le répète, la filière laitière pour moi est la filière la plus difficile en agriculture. C'est tous les jours, donc c'est une présence permanente, c'est une filière dynamique avec plus de 50 ans d'existence, elle a le mérite d'exister aujourd'hui, avec une production de 17 millions de litres de lait, elle fait le maximum pour pouvoir fournir des produits frais, des produits qualité. On l'a vu, les fromages pays sont de plus en plus demandés par les consommateurs. Donc il est important pour que demain, cette filière soit encore présente.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Bonne soirée, Benoît Ferrand. À demain sur RFI.
Le Conseil Santé avec Sunoa Assurance.
Le Conseil Santé de 24 heures en France pour prendre soin de vous et soin de vos proches. Et on revient précisément sur la peau, Caroline Paré.
Docteur Antoine Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue, membre de la Société française de dermatologie. Est-ce que la carnation de la peau foncée ou claire implique des fragilités, des risques particuliers ?
Intrinsèquement, non. On n'a pas de preuve aujourd'hui que l'activité pigmentaire, plus ou moins foncée, plus ou moins claire, est en rapport direct avec ce qui fait la résistance de la peau aux agressions extérieures, sauf évidemment, il y a un rapport direct avec la résistance aux rayons ultraviolets du soleil.
Un point précis, ce sont les kéloïdes, un problème de cicatrisation. Comment se fait-il que ce problème survient plus souvent sur les peaux noires que sur les peaux blanches ?
Alors ça, on l'ignore. Il faut dire que les kéloïdes ont commencé à être décrites sur des peaux blanches au 19e siècle. Et au début, c'était des choses un peu mystérieuses. Et puis, dans la fin du 19e siècle, on a compris que c'était souvent déclenché par un phénomène de cicatrisation. Mais attention, ce ne sont pas des cicatrices. C'est en fait un phénomène particulier qui est parfois, la plupart du temps, déclenchée par la cicatrisation. Et on ignore pourquoi elles sont si fréquentes et surtout si graves chez les personnes d'ascendance africaine. Mais on n'a pas de preuve, là encore, qu'il y a un rapport direct entre le pigment qui fait la couleur de la peau et la prédisposition à faire des kéloïdes.
Observation, mais pas encore d'explication. Merci, docteur Petit. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, on va parler des affections de la sphère ORL, nez, gorge, oreille, angine, otite, laryngite. Quels symptômes, quels traitements? Comment expliquer les infections à répétition chez certains? On se retrouve à 9h10, 1h10, temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
C'est bien noté, Caroline Paré. Et c'est ainsi que se referme cette édition de 24h en France, votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité française sous les notes de Quincy Jones et le morceau Evening in Paris. Hommage à Quincy Jones, légende de la musique qui s'est éteint à l'âge de 91 ans dans 24 heures en France. Aux manettes de cette émission ce soir, Fabrice Violet, merci à lui. Le retour de l'actualité, c'est dans 2 minutes Afrique Soir avec Pierre Boudias. Mais en attendant, comme tous les soirs, on fait un petit détour à la bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et comme tous les soirs avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence la semaine sur une baisse de 258 points. Qui le ramène à 41 795. L'indice du Nasdaq abandonne 60 points et termine à 18 180. Les investisseurs, dans leur majorité convaincus la semaine dernière que Donald Trump gagnerait les présidentielles, sont moins sûrs d'eux aujourd'hui. La possibilité de semaines d'incertitude en cas de résultat très contesté est un facteur dans la baisse des marchés d'actions aujourd'hui. Le marché obligataire, en revanche, si mal orienté ces derniers jours, de crainte d'une large victoire républicaine, non seulement à la Maison-Blanche, mais aussi au Congrès, reprend un peu ses esprits. Le rendement du T-bond à 10 ans retombe à 4,29. Les chiffres macroéconomiques du jour sont plutôt favorables au marché obligataire. Les commandes à l'industrie en septembre reculent. C'est le deuxième mois consécutif de baisse. La tendance reste toutefois positive si l'on ne tient pas compte des commandes d'équipements militaires. Le rebond du marché pétrolier se confirme. Le prix du baril américain de pétrole gagne encore 3%, repassant nettement au-dessus de 71 $. L'OPEP et la Russie ont décidé de ne pas augmenter leur quota de production. En outre, des signaux donnés par voie diplomatique de préparation d'une attaque d'Israël par l'Iran, plus agressive que les attaques passées, contribuent également à la hausse des cours. Téhéran souhaiterait toutefois attendre l'élection présidentielle américaine avant d'agir. L'euro remonte à 1,0876. L'indice Dow Jones perd 0,6%. Le Nasdaq recule de 0,3%.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Kamala Harris ou Donald Trump, qui succédera à Joe Biden? Que retiendrez-vous de cette campagne particulièrement agressive? Alors que les Américains sont appelés aux urnes, RFI vous donne la parole et nous répondons à vos questions pour tout comprendre du système électoral américain.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
Demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Il est médecin, elle est prof, il forme un couple moderne, mais tout va voler en éclats quand la tradition change le cours des choses. Il est désigné comme chef coutumier. Dans le harem du roi, Jaili Amadou Amal raconte et dénonce encore et toujours la polygamie imposée aux femmes de son pays.
De vive voix, avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU, sur RFI.